Chers amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est toujours, vous le savez, pour moi, le même bonheur de vous retrouver pour une émission Palabre. Aujourd'hui, nous allons palabrer avec qui ? Avec Jean-Michel Legros. Et Jean-Michel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et vous le savez, chers amis auditeurs, toujours avec la complicité technique de Didier. Alors Jean-Michel, bonjour.
Bonjour, Joss.
Voilà. Alors... Je te reçois, non pas pour ta fonction de médecin, mais pour l'écrivain que tu es en train de devenir, l'écrivain qui naît, avec un roman, 11h19. Mais avant de parler de ce roman, j'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Qui es-tu ?
Avec plaisir. Je pourrais me présenter en quelques mots très très simples, et ceux qui me caractérisent le plus... et que je revendique hautement et avec force, je suis un fils de paysan et je promène avec moi depuis ma naissance ces valeurs de la terre, ces valeurs de la simplicité, de l'humilité que j'aime à travailler et que j'aime à développer dans le but de pouvoir aussi, dans le même temps, puisqu'on parle d'écriture, porter une parole qui soit celle de la terre, celle de l'humilité, celle de nos racines, qui peut nous amener bien sûr un peu plus loin sur les racines célestes également. Je suis effectivement médecin, je travaille dans une médecine un peu particulière qui est la médecine holistique, médecine chinoise, tibétaine et indienne. Et je dirais d'une façon un peu prétentieuse, et je m'en excuse tout de suite, Joyce, d'une médecine spirituelle, puisque ma vocation, je pense, totale et première, est celle d'apporter vraiment du bien-être, je le dirais avec, en verlan, être bien, tout simplement. Et je pense que notre monde a besoin d'un nouveau regard, d'une nouvelle approche, tant sur le plan médical que sur le plan psychologique et émotionnel, pour atteindre le bonheur, tout simplement, si possible, dans cette expérience de vie-là.
Bien, je vais faire ma naïve. Quelle différence y a-t-il entre une médecine traditionnelle, telle qu'on la connaît, et la médecine holistique ? Est-ce que le parcours d'études est le même ? Voilà.
Alors, le parcours est un petit peu différent. La médecine traditionnelle, le mot n'est pas tout à fait adapté sur notre médecine. Je l'appellerai médecine moderne, puisqu'elle date de Lavoisier, elle a 2 siècles et demi, presque 3 siècles maintenant. Une tradition est quelque chose qui se perpétue pendant des siècles. La médecine chinoise, en l'occurrence, la médecine indienne, ayurvédique, la médecine tibétaine, ont presque 30 siècles, c'est-à-dire 10 fois plus. Donc il y a une tradition qui se perpétue et qui va permettre d'offrir une connaissance, une culture absolument beaucoup plus importante. Si on reprend notre grand maître ici, qui a rédigé, qui a édicté, on pourrait dire, notre médecine, le serment d'Hippocrate, entre autres, Hippocrate était un maître holistique. Malheureusement, aujourd'hui, on a juste oublié ce mot. On est dans une médecine, je voudrais pas me faire de mauvais amis, qui est plus axée sur le plan physiologique, mais qui a oublié la partie de l'âme, la partie des émotions. C'est bien dommage que chaque être humain est avant tout un être d'amour, avant d'être un être de chair.
Et pourtant, voilà. On entend souvent dire, c'est paradoxal, que souvent, par exemple, certaines maladies, certains cancers même, relèvent d'abord d'une souffrance émotionnelle qui se répercute dans le corps.
Je suis tout à fait d'accord avec ce propos, Joyce. La maladie, on pourrait décomposer le mot pour dire le mal à dit. Dit s'écrit D-I-T. Et la D-I-T, c'est la science de Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 3700 ans en arrière, les Chinois ne disaient pas « je suis malade », ils disaient « j'ai mal à Dieu ». Ça n'était pas religieux, mais spirituel. Oui. Spirit, donc l'âme, le monde des pensées et des sentiments. Nous sommes des êtres d'énergie, nous avons une longueur d'onde. Donc, on pourrait considérer que notre longueur d'onde n'était pas en amour, en paix, en joie, en lumière, mais plutôt en souffrance, en tristesse, en colère ou en malheur. Donc, en fin de compte, c'est parce que nos dispositions émotionnelles et psychologiques ne sont pas bonnes, ne sont pas heureuses, que notre champ cellulaire va subir des modifications et nous entraîner dans la maladie. Il y a quelques maladies qui peuvent être héréditaires, ça arrive très très peu, on ne passe pas chez le notaire pour avoir une maladie, mais notre champ émotionnel est à l'origine de 95% de nos pathologies. Je reprends ce même chiffre, 95%, c'est aujourd'hui, à l'heure où je parle, la conviction de 95% des scientifiques du monde entier.
Alors justement, j'ai envie de te demander, avec toute cette richesse, comment as-tu eu envie d'entrer en littérature ? Ne te dis pas dans quelle galère me suis-je aventuré en voulant écrire un roman, 11h19. Parle-moi de la genèse de cette écriture, de l'écriture de ce roman. Comment il est né ?
Comment il est né? Alors tout d'abord,
pour répondre au
début de ta question, Joyce, peut-être que j'aime les galères et que les galères ne sont jamais que des expériences qui vont nous apprendre l'apprenti sage. Parce que c'est la somme des expériences qui nous apprend la sagesse. Je pense que c'est la continuité peut-être de mon action dans l'action humanitaire dans un premier temps, plus dans mon métier médical. Transmettre des choses, transmettre des connaissances que j'ai pu acquérir à travers mes expériences, à travers mes apprentissages, ça me semblait la suite logique de ma mission sur cette terre. L'apprendre de façon le plus simple possible, la plus accessible possible, c'est la raison pour laquelle 11h19 est un support presque romanesque, on pourrait dire, mais avec l'objectif ambitieux, à travers les mots, d'apporter un éclairage nouveau, un regard nouveau sur les grandes valeurs de la vie, sur les grandes choses de la vie qui sont l'amour, la vie elle-même, la mort aussi, qui est un sujet tabou et qui fait peur, pour arriver à réconcilier chacun et chacune d'entre nous à ces grandes choses, ces grandes causes qui peuvent nous altérer, qui peuvent nous empêcher de voir la lumière un peu plus grande et un peu plus lumineuse.
Alors, vous n'avez pas l'image, chers amis auditeurs, donc je vais vous présenter la première de couverture du roman 11h19. Nous avons juste le nom de l'auteur, Jean-Michel Legros, le titre 11h19, et puis une image où on voit en rouge, enfin, une horloge et en arrière-fond, une gare. Alors j'aimerais que tu m'expliques le choix du titre et de cette première de couve.
Le choix du titre est dû complètement au hasard, à bon oxygène de Lilette à cordes, parce que j'ai commencé ce livre Lilette à cordes, et il est venu d'une idée absolument fantasque. Pourquoi 11h19? Je n'en sais absolument rien. J'ai posé 11h19 sur le papier et j'ai commencé d'écrire. J'ai laissé ce livre un peu en sommeil pendant quelques temps et je l'ai repris grâce au confinement. J'ai retrouvé, par le plus grand des hasards, dans une de mes armoires, cette petite horloge arrêtée à l'heure de 11h19. Et cette horloge a une valeur tout à fait particulière pour moi et absolument très forte sur le plan émotionnel. Ma grand-mère est décédée en décembre 2002, en novembre 2002, pardon, à 27 novembre 2002. Et cette horloge s'est arrêtée le 27 novembre 2012 à 11h19, donc le 10e anniversaire, très très précisément à l'heure et à la minute où ma grand-mère est partie pour un autre voyage.
Une correspondance, comme tu dis.
C'est une correspondance, tout à fait, d'où la raison peut-être de la gare. Parce que l'idée de la gare n'était pas non plus aussi prévue ou imaginée, elle m'est arrivée comme ça. Pourquoi une gare? Pourquoi Genève? On pourrait se poser aussi toutes ces questions. Mais on va retrouver les choses vont se dévoiler au fur et à mesure de cette aventure romanesque. Voilà. Et 11h19 aussi a une autre valeur symbolique très importante. Ça correspond à ce qu'on appelle les chiffres miroirs. Et dans les chiffres miroirs, quand on les observe de près, on peut trouver d'ailleurs plein d'informations sur ces sujets dans la presse, sur Internet. 11h19 correspond à un message angélique. On va le retrouver également dans toutes les données numérologiques, ainsi que dans le tarot de Marseille, qui représente la carte de l'empereur. Et le 11h19 est la symbolique des messages du céleste. Alors je pense avoir été inspiré fortement par ma grand-mère, qui a dû dicter ce livre, et moi simplement l'écrire. J'étais le scribe de ma grand-mère.
Donc un titre assez énigmatique, qui ne s'éclaire véritablement qu'à la fin du roman, puisque le roman se termine par « Il était 11h19 ». Bien, alors voyons maintenant le sommaire. Moi, j'ai trouvé, justement, j'aimerais que tu nous expliques le choix de ces têtes de chapitres, 8 chapitres, avec des titres extrêmement dépouillés, succincts. Explique-moi pourquoi cette composition avec ces 8 chapitres.
Composition très tonique. Vous savez que l'histoire se déroule sur un délai très très court. L'histoire démarre dans une gare. Et quand on arrive dans une gare, il y a toujours un chef de gare qui annonce l'heure d'arrivée du train.
Oui.
Et l'heure d'arrivée du train est 11h19, bien évidemment, tu l'as deviné. Voilà. Il y a une très grande tonicité au départ, parce qu'il y a une enquête pour rechercher une personne qui est aimée, mais qui n'est pas connue. Et ensuite, il y aura, pour la deuxième partie, un nombre de visites très courts,
oui,
de rencontres très courtes, d'une relation amoureuse très forte, je le pense, très puissante, platonique.
Alors, justement, franchement, j'ai trouvé ça très astucieux, parce que le roman commence comme un peu comme un roman d'amour, presque à l'eau de rose, hein, une rencontre dans une gare, bon, quoi de plus banal. Ouais. Et puis plus on chemine, on se rend compte de l'intensité de cette relation qui est simplement platonique.
Tout à fait.
Voilà.
Mais le plus grand amour est platonique. Beaucoup de philosophes l'ont dit, l'ont démontré. La plus grande force de l'amour, ce n'est pas vouloir absolument s'approprier l'autre, mais avoir la capacité à résister à l'autre sur le plan physique, sur le plan matériel, pour pouvoir développer l'aspect spirituel et intellectuel de la relation. De plus, la séparation est un... On en parlait tout à l'heure, Joyce. La séparation est quelque chose qui est de très douloureux, et de très peu accepté par nous, humains. C'est toujours douloureux, c'est toujours difficile, que ce soit le divorce, que ce soit le deuil, que ce soit toute autre forme de séparation. Et je voulais démontrer à travers la rapidité de ça, c'est que ce livre se termine à une cinquième rencontre, mais c'est la sixième qui est peut-être la plus intéressante, en fait, puis c'est celle qui va durer toute l'éternité.
Oui.
Voilà. Ce qui va m'obliger à écrire de nombreux tomes, j'imagine, par la suite.
On y reviendra hors antenne, parce que c'est édifiant ce que tu me dis là. Alors, l'histoire se déroule sur 13 jours. On pourrait se demander pourquoi ce choix d'un resserrement temporel. Moi, à mon avis, c'est pour donner plus de densité à l'histoire. L'as-tu voulu ainsi?
Oui, tout à fait. C'est un choix délibéré. Quand on fait une rencontre dans une gare ou dans un lieu public, rencontre très brève, très furtive, puisqu'ils ne connaissent que leur nom et leur prénom, simplement. Le fantasme rentre toujours dans notre esprit, l'imaginaire aussi, et chacun va partir dans des grands rêves, dans des grands délires, dans des grandes aventures romanesques qui, bien évidemment, vont rester tout à fait personnelles et ne seront jamais vécues, d'une part et de l'autre part, d'ailleurs. Et là, j'ai voulu donner une suite à cette histoire avec une réalité physique. Réalité physique courte dans la mesure où Anna, personnage principal de ce roman, a l'obligation de partir aussi sur d'autres plans. Donc le temps était compté. Mmh. C'était aussi une deuxième façon de montrer que le temps n'a pas beaucoup de réalité, en fait. Nous, on parle pendant un certain temps. Mais par rapport à l'échelle de l'éternité, ça ne veut rien dire du tout. C'est insignifiant. Nous sommes tous dans l'intemporalité. Parfois, le temps nous semble très long, parfois, il nous semble très court. Pourtant, sur le cadran, il est allé à la même vitesse. Donc, en fin de compte, c'est juste une question de perception, de ressenti, d'intensité de nos émotions qui va faire qu'on va lui mettre de la durée ou de l'intensité.
Ouais. Mais justement, est-ce que c'est une manière de nous transmettre ce message? Moi, je l'ai perçu vraiment, pleinement pour moi. Il faut être en urgence de vivre l'instant présent. Comme il est dit à la page 150, je trouve cet aphorisme magnifique, simple mais magnifique. L'histoire s'écrit à chaque seconde, mais ne peut se réécrire.
Tout à fait. On doit vivre sa vie comme si chaque seconde était la dernière. Comme ça, on y mettra toute l'intensité de notre cœur, de notre esprit, donc de notre âme. Le passé est passé, on ne peut plus le changer. Ce qui s'est dit il y a 2 minutes, ce qui s'est fait il y a 1 heure ou il y a 15 jours en arrière, est fait. Le futur nous fait peur, c'est l'inconnu. Moi, je l'écris de façon un petit peu différente. Je l'écris L'UN, hein, notre unicité, est connue plus loin. Mais nous avons du mal à enlever les peaux, un petit peu de se dépouiller comme le pèlerin, hein, parce que le pèlerin, c'est quelqu'un qui va avancer sur un chemin pour se découvrir, découvrir l'autre, mais se découvrir lui-même, au fond de lui-même, aller à l'intérieur de son temple. Donc la notion de temps est très très importante. Chaque seconde de temps est une seconde d'amour. Si on se situait sur le plan purement matériel, nous allons vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, nous ne savons pas. Chacun d'entre nous peut mourir d'une seconde à la dose, d'une crise cardiaque, d'un AVC, ou un avion s'écrase sur ce studio. Et notre histoire sur ce plan terrestre serait ainsi terminée. Provisoirement, bien évidemment. Il me semble donc important que chaque seconde de notre vie puisse symboliser être la chose la plus importante de notre vie. Ce matin, en me recevant, vous me faites, Joyce, et toute l'équipe technique, vous me faites un cadeau d'amour puisque vous me consacrez de votre temps de vie, que moi, en dehors de l'entretien que
vous permettez
de faire.
Mais Didier est toujours là et on ne cessera jamais de le remercier pour cette disponibilité qu'il a pour nos invités.
Et du sourire merveilleux qu'il nous transmet à tous et à tous les auditeurs. Chaque seconde que l'on a est donc la plus précieuse. Donc quand je donne une seconde de ma vie à la vie de quelqu'un d'autre, je lui donne ce que j'ai de plus précieux, donc c'est un cadeau d'amour. Donc le temps, c'est de l'amour en fait. Et ce qui est très important, c'est que la vie, du coup, ne pourrait pas être vécue sans amour, mais inversement, l'amour ne pourrait pas être sans la vie. Les deux sont indissociablement mêlés, mariés.
Justement, alors on a parlé du resserrement temporel. Sur le plan spatial, le récit commence à la gare de Lausanne, de Genève plutôt, et se termine à Lausanne 13 jours après. En quoi ce resserrement spatial est-il en adéquation ou pas avec le resserrement temporel?
Tout simplement, c'était pour montrer que sur un temps très court, volontairement très court, comme je le disais tout à l'heure, on peut parler aussi d'éternité. Voilà. Et chaque propos, chaque conversation qui a lieu entre les deux personnages principaux de ce roman, Pierre et Anna, est toujours empreint de cette notion d'éternité. Que ce soit dans la vie, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans l'approche de la mort, ou toute autre forme de sentiment ou de comportement qu'on peut avoir sur ce plan terrestre. Je voulais casser les frontières, les barrières que l'on met au temps, qui est souvent une contrainte, qui est souvent une prison. D'ailleurs, on parle souvent de sortir de sa prison, et en langage alchimique, persévérer, en fait, c'est percer pour voir. Nous devons donc percer les parois, les murs qui bordent notre prison, pour s'ouvrir sur tout le monde de l'extérieur qui, lui, va nous conduire à l'intemporalité.
Alors, le jeu du narrateur, Pierre, qu'a-t-il à voir avec toi, ce jeu?
Les quelques lecteurs qui m'ont fait des retours sur ce livre m'ont dit « Tu ressembles beaucoup à Pierre ». Alors, c'est vrai que Pierre est un fils de paysan. Tiens, c'est surprenant. Je l'ai mis dans la lavande, parce que je trouvais que la lavande sentait peut-être une meilleure odeur que les céréales, voilà, mon père. Et puis, il y a eu le côté peut-être un peu plus poétique de la chose de la bonne Provence, de ses belles senteurs, de ses belles odeurs, de ses belles couleurs. Oui, je ressemble beaucoup à Pierre. Je ressemble aussi un peu à Anna. Voilà. Alors, sans que ce soit un livre autobiographique, je voulais aussi transmettre à travers cette écriture aussi une partie de mes expériences, une partie de mes ressentis, à travers quelques événements un peu particuliers de ma vie.
Mais justement, sur le plan générique, tu parles de roman. Or, véritablement, quand on plonge dans la lecture de ce texte, on est gêné génériquement pour le classer. Parce que, à proprement parler, ce n'est pas un roman, tant il est vrai que tu abordes des questions fondamentales, des questions métaphysiques absolument importantes pour chacun de nous.
Tout à fait. Le roman est un peu usurpé. J'ai eu du mal à le classer. Je pourrais le mettre dans le développement personnel, puisqu'il y a beaucoup de conseils dans le comportement au quotidien qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir améliorer sa vie. Discours spirituel aussi, bien sûr, bien évidemment. Donc très difficile à classer. Le roman est le support, puisqu'il y a une histoire d'amour qui démarre de façon, comme tu le disais aussi bien tout à l'heure, très douce, très soft, presque roman photo. Ce qui m'a un peu gêné un peu au départ, d'ailleurs. Et puis, on est tout de suite emporté par l'aspect beaucoup plus spirituel, qui est quand même, je pense, le moteur premier de ce que j'ai voulu écrire.
Justement, nous avons un texte hybride qui laisse une large place au dialogue, des dialogues qui, toute mesure gardée, s'apparente un peu à la maïeutique socratique, toujours un accouchement des esprits qui échange des idées sur la vie, sur la spiritualité, sur l'amour, la mort, tu as dit, tous les thèmes fondamentaux de la métaphysique en fait. Donc on a l'impression que ce texte est à la fois entre roman et réflexion, dialogue philosophique.
Tout à fait ça. De plus, il y a un mariage entre deux personnages qui ont une origine très contradictoire. Pierre est un fils de paysan, il est devenu prof de musique presque par accident, par passion aussi un peu, mais presque par accident, puisqu'il a dû se dépêcher d'avoir un métier. Voilà ce qui arrive souvent d'ailleurs dans nos situations de famille,
oui,
où on est un petit peu poussé.
Mais on sent quelqu'un qui ressemble à l'auteur là aussi, oui.
Quelque peu. Un peu plus jeune que moi d'ailleurs. Et puis Anna, qui est une femme cadre supérieur, qui a eu une vie absolument brillante, remplie de belles réussites, qui a travaillé également dans l'humanitaire pour sa part. Et c'est la rencontre de deux êtres d'origine totalement différente, deux parcours totalement différents. Et puis, ce que vit Anna à travers son problème de santé, on peut le dire ainsi, l'amène à aborder sans tabou, sans pudeur, tous ces grands thèmes de la vie. Finit par en forger des croyances, des convictions, ou tout au moins un nouveau chemin dans sa compréhension. Et va amener, du coup, Pierre, ce garçon qui sort de sa Provence.
Oui, et puis qui était calcifié dans une relation de couple. On a l'impression, justement, qu'il était calcifié. Mmh. Et puis cette rencontre l'ouvre à la vie.
Complètement. Au départ, Pierre rêve tout simplement d'une aventure amoureuse classique. Mmh. On se rencontre, on s'aime, on prend un appartement, on fait des enfants et on vit de façon tout à fait normale. Sauf que Anna, pour sa part, elle est dans une démarche tout à fait différente, puisqu'elle est à l'aube d'un nouveau départ. Et elle va arriver à amener Pierre à modifier quelque part toutes ses considérations, mais pas seulement sur le propos, sur la conviction, sur l'explication, sur l'ouverture du cœur à comprendre ce que c'est. Et Pierre, malgré quelques périodes de doute, quelques questionnements parfois justifiés, va arriver à être absorbé, hall de paix, par le côté merveilleux de ce que Anna lui propose comme chemin.
Oui, justement, Anna a un personnage tellement attachant. Elle est assez énigmatique, assez évanescente, comme si elle était presque déjà pur esprit.
Tout à fait. Quand on est dans ces périodes de départ, alors c'est vrai que peu de gens en ont eu l'expérience, bien évidemment, d'être quasiment parti, si je peux utiliser ce mot, et revenu, on traverse une période un petit peu, je dirais, entre deux plans, hein, entre le 8e plan et le 9e plan. On est physiquement ici, bien sûr, matériellement ici, touchable, palpable, rencontrable. Mais notre esprit est déjà un peu ailleurs, il est déjà en connexion avec tous les aspects différents, célestes, que j'appelle du plan supérieur. Et c'est ce qui fait que là, ce côté un petit peu âme de Pénée, on la voit très évanescente, lumineuse, mais en même temps, comment dire, raccrochée par les propos de Pierre, par les questions de Pierre, par les peurs de Pierre. Et elle veut en faire presque un disciple, si je peux me permettre ce mot. Et Anna deviendra le guide, d'amour de Pierre.
Et justement, ce qui dédramatise un sujet qui aurait pu être quand même très très grave, très morbide, c'est cette espèce d'humour mélancolique qui habite tous ces dialogues, tous ces entretiens entre les deux personnages. Est-ce que dans la vie, déjà, toi, tu cultives l'humour? Parce que c'est un art extrêmement difficile, parce que l'humour est fin.
J'ai cette réputation.
Ah.
Je suis souvent invité pour l'humour et ma gourmandise. Non, l'humour, c'est de l'amour. L'humour, c'est de l'amour. Faire rire le cœur, faire rire l'esprit, c'est se mettre dans des dispositions où on va ouvrir toutes nos portes pour accueillir. Et c'est déjà la notion de partage. Rire seul, oui, c'est possible, mais on rit toujours en groupe, souvent. Et ça crée un lien de cohésion, un lien de partage qui me semble très très important, fondamental même.
Mais on a l'impression ici, ce qui tient le roman, la charpente, la passerelle du roman, c'est en fait l'hymne à la vie, l'éloge à la vie, à la joie, même si justement en arrière-fond, on a quelque chose qui pourrait paraître difficile. Est-ce que c'était ton projet d'écriture ?
Oui. Oui, tout à fait. Par mon expérience professionnelle, j'ai fait de l'accompagnement de mourants pendant plus de 25 ans. C'est une expérience très forte, très riche, très émouvante. À chaque fois, c'est une grande, grande histoire d'amour qui se crée, parfois de quelques secondes seulement, parfois de quelques jours, ce qui a pu expliquer d'ailleurs la densité du roman sur les 13 jours. C'est le premier point. Deuxièmement, c'était pour faire comprendre au lecteur que le contraire de la mort, c'est pas la vie, c'est la naissance. Toute chose qui naît meurt. La vie, elle, continue.
Retenez, chers amis auditeurs, le contraire de la vie, ce n'est pas la mort.
C'est la naissance.
C'est la naissance. Édifiant. Justement, je lis cette très belle page 81, phrase d'Anna. Ce n'est pas moi qui parle de la vie, c'est la vie qui nous parle. Mais la plupart du temps, nous ne l'entendons pas. Petit commentaire?
Oui. Oui, effectivement, l'objectif c'était d'expliquer une chose très simple. Notre façon d'observer est tout à fait limitée, on va dire, aux choses du modernisme, aux choses de la matérialité de la vie. Et nous avons perdu les capacités à observer les très belles choses de la vie. Simplement, le chant d'un oiseau, le sourire d'un enfant, une démarche d'une gramoune comme ça, qui déambule dans sa tenue traditionnelle. Tout ça est beau et merveilleux, et on a perdu toute cette lisibilité-là. Et c'est vraiment dommage de pouvoir se passer de toutes ces belles choses. On peut aller encore un tout petit peu plus loin, puisqu'on a tout catégorisé. On souscrit déjà des assurances vie presque à l'âge de 18 ans, à notre majorité. Donc on nous met dans des schémas complètement stéréotypés, et du coup on finit par perdre complètement la notion de vivre, au sens noble du terme, c'est-à-dire acter chaque seconde de la vie, la nourrir, l'emplir de toutes ces choses, de la relation, du partage, de l'amitié. Amitié, je l'écris aussi en deux mots, hein, j'adore jouer avec les mots, âme, moitié, amitié c'est moitié d'âme aussi. Et on perd toutes ces notions de partage, toute cette qualité d'enrichissement de la vie. C'est ça que j'ai voulu aussi démontrer, pour mettre de l'intensité dans le mot, mais aussi dans les actions que nous avons menées nous-mêmes au quotidien, dans chacune de nos relations, quelles qu'elles soient.
Et c'est Anne qui dit encore, pour bien vivre la réalité, soyons réels, c'est-à-dire simple, spontané, authentique.
Oui, alors je prendrais presque Auteuil qui cultivait l'authentique, oui. Dans Manon des Sources. Oui, l'authenticité est la plus belle des choses. L'écoute authentique, qui était développée par Christian Hurley, un très grand psychologue qui travaille aux États-Unis, français du reste, et ami, c'est l'écoute du cœur. Nous avons tellement de conceptions, de croyances différentes les uns et les autres par nos modes d'éducation, parental, scolaire, religieux, fait que nous sommes quelque part très divisés, très démunis, très désunis. Hein, le mot « uni » est très important. Parce que le mot univers, c'est uni vers quelque chose. On peut être uni vers une voie, uni vers une spiritualité, mais aussi uni vers les autres. Donc, il me semble important qu'on puisse à nouveau avoir cette démarche de proximité en permanence avec le langage du cœur. Notre tête, notre mental est une usine à M. C'est le même, on peut dire le mensonge, on peut dire même d'autres mots un peu moins sympathiques, tout simplement parce qu'on est pris dans des conventions, dans des obligations de pièces de théâtre, parce que nous, on a des rôles à jouer. Alors, pourquoi pas, à certains moments, ça peut se comprendre, ça peut s'expliquer.
Le théâtre mundi.
Tout à fait, c'est tout à fait ça, je reste. Alors que la sincérité, il n'y a rien de plus beau. Une larme qui va couler parce que je suis sincère sera toujours comprise, appréciée, valorisante, et non pas le contraire. Souvent, on a peur. Je parle aux hommes essentiellement. Les hommes ont peur de pleurer. Enfin, je serais devant une femme, leur ego serait absolument blessé, mis à mal. C'est tout le contraire. Montrons que nous avons un cœur qui vit, qui bat, que nous avons des émotions. Nous sommes des êtres d'émotion, avant toute chose.
Absolument.
Ne l'oublions pas.
Malheureusement, notre émission va se terminer. L'écriture elle-même est efficace. Il y a beaucoup d'aphorismes. Et pour, avant de te laisser le mot de la fin, je lis juste un aphorisme. Tous les gens qui souffriront de mon départ, c'est pas vraiment un aphorisme, mais qui a cette valeur. Tous les gens qui souffriront de mon départ sont des ignorants. Rappelez-vous la phrase de Rabelais, etc. Tous les gens qui souffrent de mon départ sont des ignorants. On est là dans l'espoir, le sale espoir d'Antigone. La mort n'est pas une fermeture.
Tout à fait.
Et oui.
Pour poursuivre sur la phrase de Rabelais, Rabelais a dit ceci. La souffrance est le mal de l'ignorance. Quelqu'un qui est ignorant, c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas la connaissance. Qu'est-ce que la connaissance? Quelqu'un qui a la connaissance, c'est quelqu'un qui est éclairé. Et s'il est éclairé, il a la lumière. Et avoir la lumière va enlever toute l'ombre. Un simple fil de lumière enlève toute l'ombre. Donc l'objectif de ce livre était de pouvoir donner à chacun la capacité de s'accrocher à ce fil de lumière pour enluminer chaque jour et chaque seconde de sa vie.
Chers amis auditeurs, nous avons reçu pour vous Jean-Michel Legros, médecin et désormais romancier. Merci Jean-Michel. Le mot
merci
de la
Joyce.
Fin peut-être pour nos auditeurs. Merci à toi mon Didier.
Merci à Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Merci à toi, Joss. Et je souhaite, c'est un grand vœu, hein, bien sûr, que chaque lectrice, chaque lecteur puisse avoir la clé qui puisse ouvrir la porte de son temple, pouvoir ouvrir sa vie vers de meilleurs horizons, plus de joie, plus de bonheur, tout simplement, en toute humilité et en toute simplicité. Et bien sûr, authenticité.